Alors c'est un petit message, on espère réconfortant, mais c'est en distribuant nos prospectus, et on a donné aussi des numéros de téléphone pour que les passagers puissent nous contacter. Et il y a un monsieur anglais qui me dit « It seems like the person concerned is not on board to Paris Charles de Gaulle, but I'm not sitting on the last roads. » Voilà. Donc la personne ne serait pas dans l'avion. Plutôt une bonne nouvelle. Donc le commandant de bord aurait refusé de la prendre à bord. Mais comme il y a eu d'autres passagers qui ont donné aussi cette lettre au commandant de bord en expliquant que cette dame était malade, peut-être que ça a porté ses fruits. Voilà. Alors je pense que là, elle est retournée au centre de rétention et... Eh bien, les personnes de Tarbes vont sûrement aller la voir. Voilà, tu peux les interroger.
Il y a parmi les gens qui ont manifesté, il y a la Ligue, non, RSF.
Je suis Réseau Éducation Sans Frontières, mais également représentante de la Ligue des Droits de l'Homme dans le comité de pilotage du Réseau Éducation Sans Frontières.
Voilà, à Tarbes.
À Tarbes, voilà.
Il y a le Cercle des Voisins. Et il y a le MARAP, et la CIMADE qui est en dehors du CRA.
Alors justement, vous la connaissez personnellement, cette dame, hein?
Bon, alors, c'est une dame qui a 57 ans, qui est en France depuis un peu plus de 5 ans, qui est venue avec son mari et sa fille unique et son gendre et ses deux petites filles sont venues un peu ensuite, je crois, ou presque au même moment.
Presque en même temps.
Et sa maman. Oui, j'ai oublié sa maman. Sa vieille maman, qui finalement est décédée au bout de quelques années. Elle est enterrée à Tarbes, donc elle a un attachement en plus par rapport à ça. Et elle est très malade. Enfin, elle a plusieurs affections, un peu...
Diabète, respiratoire...
Tension.
Tension, ouais. Mais en plus, il l'éloigne de toute la famille qui, elle, est en France avec des demandes de titre de séjour en cours. Voilà, et on trouve ça inadmissible et dangereux de la faire voyager alors qu'elle est dans cet état-là, en plus.
Il faut quand même rappeler que nous avons fait un rassemblement devant la préfecture jeudi soir... que nous avons rencontré la directrice de cabinet que les Toulousains connaissent bien, qui s'appelle Madame Sophie Posat, qui était responsable du service des étrangers, qui nous a certes peut-être écouté, mais qui est dans son droit fil de tout ce qui est administratif, respectueux, donc autant vous dire que même si on a été écouté, je ne suis pas convaincue qu'on ait été entendu et que quelque chose a été fait par la suite. Nous avons appris que madame avait un problème respiratoire important aussi. Donc hier encore, le coordonnateur du réseau Éducation sans frontières, Jean-Louis Imbert, a repris contact avec monsieur Bouju, qui est le secrétaire général de la préfecture, pour l'interpeller sur ce risque-là. Et hier soir, nous n'avions pas de réponse positive. Donc je crois que, en ce qui concerne les différentes associations... on a essayé de porter haut et fort les risques encourus par madame qui crie à rien, si j'arrive à le dire, pardon. Mais si jamais il lui arrive quelque chose, y compris en Arménie, je pense qu'on entendra beaucoup parler de nous.
Oui, on a vu la directrice de cabinet. Elle a essayé elle nous a écoutés, mais elle restait vraiment complètement le droit, l'administratif. Et il n'y avait pas de Marie-Jo a utilisé le terme de bienveillance. Et elle nous a dit, la bienveillance, c'est le pouvoir discrétionnaire du préfet. Or, le pouvoir discrétionnaire du préfet, il ne s'exerce jamais, parce qu'en fait, il se retranche toujours vers le droit des étrangers le plus sec. Et jamais, par exemple, cette dame, certes, était sans papier, donc histoire de bienveillance, non, on n'en parle pas, parce que s'il voulait, il aurait le pouvoir. Les préfets ont tous un pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire qu'en dernier ressort, même si la dame est sans papier, même si ceci, même si cela, il a la possibilité de dire, bon, bah, cette dame, on ne la met pas en CRA, on enlève l'assignation à résidence, on lui donne ceci, on lui donne cela. Ça, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Voilà. Je la connaissais quand même, au moins je la voyais, enfin, elle venait au cours de français encore jusqu'à il y a très peu. Le fait est que maintenant, elle avait un problème médical qui s'était fait jour depuis peut-être quelques années. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais un problème quand même assez sérieux. Quoi. On a eu d'ailleurs, au moment où elle a été envoyée au centre de rétention, on a envoyé des certificats médicaux. Bon, on voyait bien que c'était sérieux. Quoi. Enfin, ce n'était pas des petits trucs de complaisance, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà.
Mais je crois même qu'elle a passé son temps, elle n'a pas été avec les autres.
Oui, elle était dans une chambre spéciale à part où voilà, elle pouvait pas être en dortoir ou des choses comme ça. Elle était quand même vue par le médecin, je crois, tous les jours. Voilà. D'ailleurs, quand elle a été appréhendée, en fait, elle était à l'origine, elle était assignée à résidence. Bon, l'assignation à résidence, c'est un petit peu la piste de départ, parce que quand on est assigné à résidence, c'est comme si on était en centre de rétention, sauf qu'on reste chez soi et on va pointer tous les jours à la police. Elle a été assignée, elle était donc un jour, dernièrement, là, ça fait une dizaine de jours maintenant, elle allait signer et là on lui a dit, hop, vous restez là, madame. Et là, bon, elle a été tellement saisie qu'elle a fait un malaise. Elle a été envoyée quand même à l'hôpital avec la police. La police a demandé à ce que sa fille aille chercher les médicaments et l'appareil à respirer. Et après, ils l'ont ramenée au commissariat et puis ensuite, ils l'ont emmenée au centre de rétention. Et la dame de la préfecture que j'ai appelée dans l'après-midi m'a dit oui, elle a fait un malaise vagal. Donc c'était une énorme hausse de tension. C'est quand même, on était sur autre chose, quoi. Voilà.
Et là, à l'heure qu'il est, là on est au restaurant là, panoramique d'aéroport de Blagnac. Et là, normalement ?
Normalement, l'avion était à 10h15 et je ne sais pas si c'est celui qu'on voit là et s'il va partir, puisqu'on ne peut pas aller sur les pistes, donc on ne peut pas savoir exactement. On ne sait pas trop. On a eu vaguement. Enfin, il y a eu un SMS donc, d'un passager anglais qui a dit qu'elle ne la voyait pas, mais est-ce qu'elle n'est pas dans un compartiment je ne sais pas. On va voir, de toute façon, on va aller voir au centre de rétention si elle y est.